Le journal, présenté par Stanislas Vazak.
Bonsoir. Richard Ferrand quitte le gouvernement. Officiellement, Emmanuel Macron ne sanctionne pas son ministre visé par une enquête préliminaire. Il l'envoie à l'Assemblée diriger le groupe La République En Marche. Le décryptage de Ludovic Piétenu dans un instant. LREM, le parti du président qui a sans surprise obtenu la majorité absolue après sa victoire aux législatives. Mais les Républicains ont réussi à sauver 113 sièges. Nous verrons cela avec Frédéric Mettezeau. Enfin, nous reviendrons sur cette abstention record hier, 57,4%. Du jamais vu pour un scrutin législatif sous la Ve République. Nous analyserons le phénomène avec notre invitée Céline Braconnier, co-auteur d'un ouvrage sur la démocratie de l'abstention. Mais on va commencer ce journal par cette tentative d'attentat sur les Champs-Élysées à Paris aujourd'hui. Un homme a lancé sa voiture sur un fourgon de la gendarmerie. Il n'y a pas eu de victimes chez les forces de l'ordre. L'assaillant, lui, s'est retrouvé piégé dans son véhicule en feu. Il n'a pas survécu. Pour les autorités, le caractère terroriste de cette attaque ne fait aucun doute. On fait le point sur l'enquête avec vous, Maïwenn Bordron.
L'incident s'est produit à 15h40 exactement. La voiture de type Renault Mégane de l'individu a pris feu lors de la collision avec le fourgon des gendarmes. C'est une bonbonne de gaz qui pourrait être à l'origine de l'explosion. Le conducteur est décédé après avoir été extrait de la voiture en feu. Les autorités avaient tout d'abord annoncé qu'il était grièvement blessé. Un peu moins de 2 heures après l'incident, le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb s'est rendu sur place.
Une nouvelle fois, les forces de sécurité en France ont été visées avec cette tentative d'attentat sur les Champs-Élysées. Un escadron de gendarmes mobiles descendait ces Champs-Élysées quand un individu a percuté la voiture de tête. Cette voiture contenait un certain nombre d'armes, d'explosifs permettant éventuellement de pouvoir faire sauter cette voiture.
Selon plusieurs sources, l'agresseur présumé était fiché S. Il était donc connu des services de renseignement. Une enquête en flagrance a été ouverte par la section antiterroriste du parquet de Paris. Elle donne des pouvoirs importants aux enquêteurs qui vont pouvoir procéder à des interpellations et à des perquisitions plus rapidement.
Maïwenn Bordron, merci. L'AFP affirme ce soir que l'homme était fiché S depuis 2015. Il appartenait à la mouvance salafiste, selon une source citée par l'agence France Presse. À Londres, c'est un attentat anti-musulman qui a été commis hier soir près de la mosquée de Finsbury Park. Une dizaine de fidèles blessés par le conducteur d'une camionnette qui a foncé sur eux. L'individu a été arrêté. Il aurait crié qu'il voulait tuer tous les musulmans, selon un témoin cité par la BBC. On en vient maintenant à la page politique de ce journal au lendemain de la nette victoire de La République En Marche aux législatives. Comme prévu, le parti d'Emmanuel Macron décroche à lui seul la majorité absolue avec 308 sièges. Mais ce résultat est inférieur au dernier sondage qui annonçait plus de 400 sièges pour LREM. Comme le veut la tradition républicaine après un scrutin législatif, le Premier ministre Édouard Philippe a présenté la démission de son gouvernement. Il en formera un autre d'ici mercredi soir 18h. Et petite surprise, Richard Ferrand n'en fera pas partie. L'éphémère ministre de la Cohésion des Territoires est appelé à diriger le groupe La République En Marche à l'Assemblée. Rappelons-le, Richard Ferrand est visé par une enquête préliminaire de la justice pour une transaction immobilière au profit de sa compagne alors qu'il dirigeait les Mutuelles du Mans. Emmanuel Macron a donc choisi de l'exfiltrer du gouvernement pour l'envoyer au Palais Bourbon, Ludovic Piétenu.
Il est le secrétaire général du mouvement En Marche depuis sa création il y a un peu plus d'un an. Il connaît donc tous les marcheurs de la première heure. Beaucoup de ces marcheurs, désormais députés, qui rejoignent l'Assemblée nationale et qui ont besoin d'un patron. Un homme qui connaît le travail parlementaire, c'est son cas, avec un mandat à son actif, c'est ce que lui a dit Emmanuel Macron quand il l'a rencontré, lui demandant ainsi de briguer la présidence du groupe. Si c'est le président qu'il souhaite, aucun doute qu'il ne l'obtienne pas. Sur les 23 députés sortants à avoir donc une expérience, 22 se sont fait réélire dimanche soir. Richard Ferrand avait donc 21 concurrents possibles, parmi lesquels Stéphane Travert, brillamment réélu dans la Manche avec 66% face à un républicain, 10 points de plus que son collègue du Finistère. Mais non, là c'est l'amitié qui lie Ferrand à Macron, c'est la poigne, l'autorité de l'élu qui prime. Le besoin, avec un groupe à plus de 300, d'un fort encadrement politique, et avec lui, le président sait que les informations lui seront remontées, assurant ainsi un contrôle de l'exécutif sur le législatif, un système pensé bien avant la victoire à la présidentielle dans deux notes, retrouvées dans les boîtes mail de certains dirigeants d'En Marche et qui avait fuité sur Internet deux jours avant le premier tour de la présidentielle.
Ludovic Piétenu, merci. Face à l'armada des députés En Marche, les Républicains constitueront la première force d'opposition. 113 députés élus hier grâce à un petit sursaut de l'électorat de droite après la déroute du premier tour. Frédéric Mettezeau, derrière ce chiffre se cache un parti divisé par les tentatives de débauchage d'Emmanuel Macron.
Oui, 113 sièges pour le parti Les Républicains contre 199 dans la précédente assemblée. C'est un recul honorable, mais pas un effondrement. 113 députés, cela ferait de la droite le deuxième groupe le plus nombreux derrière En Marche. Mais ça, c'est sur le papier, car la droite est encore moins homogène aujourd'hui. Depuis 15 ans, l'UMP puis Les Républicains parvenaient à faire cohabiter libéraux, centristes et souverainistes. Aucun élu de droite de premier plan n'avait osé quitter la famille, soit pour gouverner avec la gauche, soit pour s'allier avec le Front National. Mais aujourd'hui, le Premier ministre et deux ministres sont des hommes de droite. Emmanuel Macron a donc ouvert une brèche. Cela pourrait continuer avec le remaniement technique annoncé pour cette semaine. Alors la droite s'interroge. Faut-il être constructif façon Jean-Pierre Raffarin ou Thierry Solaire? Faut-il s'opposer radicalement comme le voudraient Éric Ciotti ou Laurent Wauquiez? Faut-il chercher une voie médiane comme Valérie Pécresse ou Xavier Bertrand? 40% des députés LR élus hier sont des nouveaux élus. De quel côté pencheront-ils? Aurons-nous un ou plusieurs groupes parlementaires de droite? C'est le temps des conciliabules et des grandes manœuvres.
Frédéric Mettezeau, merci. On va maintenant revenir sur l'autre enseignement majeur de ce deuxième tour des législatives, l'abstention record, 57,4% hier. En 1978, année record pour un scrutin législatif, seuls 15% des électeurs avaient boudé les urnes. Invité de ce journal, Céline Braconnier, directrice de Sciences Po Saint-Germain-en-Laye, co-auteur avec Jean-Yves Dormagin de l'ouvrage « La démocratie de l'abstention ». Bonsoir.
Bonsoir.
Céline Braconnier, 29 millions d'électeurs, soit 62% des inscrits n'ont pas voté ou ont choisi le vote blanc ou nul hier. Alors est-ce que ce chiffre remet en cause la légitimité politique de la victoire d'Emmanuel Macron aux législatives?
En tout cas, elle amenuise et elle change le sens de cette victoire, qui est incontestable, mais qui fait des élus peu légitimes au regard de la très faible participation. Ils n'ont été choisis que par une minorité de citoyens. C'est la première fois qu'à une élection législative, plus de citoyens restent chez eux. Il y a eu beaucoup plus d'abstentionnistes que de votants. C'était déjà le cas la semaine dernière et ça a été encore plus marqué hier. Au chiffre que vous annoncez, des abstentionnistes et des votes blancs et nuls, il faut aussi ajouter les plus de 6 millions de personnes qui ne sont pas inscrites sur les listes électorales pour se rendre compte de l'ampleur en fait du phénomène qui effectivement amenuise la légitimité du camp vainqueur, indéniablement vainqueur de cette séquence électorale.
Et ça, c'est aussi une conséquence du calendrier électoral qui fait que les législatives suivent immédiatement la présidentielle.
Alors c'est l'une des conséquences. Pour expliquer une abstention d'une telle ampleur, il faut faire appel à un cumul de facteurs différents qui expliquent cette abstention. Bien évidemment, la dynamique créée par la victoire présidentielle a découragé un certain nombre d'électeurs dont le candidat n'était plus représenté aux législatives de se déplacer pour voter avec l'idée que tout était déjà joué. Et la méconnaissance de l'institution parlementaire, mais aussi bien sa faible place depuis un certain nombre d'années dans le fonctionnement de nos institutions politiques, le sentiment assez juste qu'ont les citoyens qui ne s'intéressent pas au quotidien à la politique, que l'essentiel se joue ailleurs en matière de politique en France, que ce n'est pas au Parlement que les évolutions politiques importantes se dessinent, explique que rares, finalement, ont été les citoyens qui se sont déplacés avec le sentiment que ce qu'ils faisaient avait beaucoup de sens. Parce que ce qui m'a frappé hier au bureau de vote, c'était non seulement l'ampleur de l'abstention, il y avait peu de personnes qui venaient, très peu de jeunes notamment, mais c'est aussi le fait que ceux qui faisaient le déplacement n'étaient pas tous enthousiastes. Disons, il y a eu aussi beaucoup de votes par devoir, notamment chez les personnes d'un certain âge, qu'il faudrait finalement aussi prendre en compte. On est dans une démocratie assez désenchantée et dont l'institution électorale est en mauvais état.
Justement, Céline Braconnier, qui sont les abstentionnistes d'hier? Est-ce qu'on a un peu une idée?
Oui, on sait très bien que lorsque l'abstention est très élevée, elle dissimule de très fortes inégalités face à la participation qui affecte en premier lieu les plus jeunes. On sait que les 18-25 ans, on peut aller jusqu'à 30 ans, sont très largement démobilisés, alors que les retraités, les 60-69 ans, votent au-dessus de la moyenne. Donc on a un corps électoral effectif qui est très peu représentatif du pays réel. On a aussi les milieux populaires qui, en fait, votent très peu à ce type d'élection, qui sont très peu prédisposés à se déplacer. Et parfois, ils se déplacent pour une élection présidentielle, ils se déplacent. Pour une élection qui a un sens évident, ils se déplacent. Quand l'offre politique est lisible, ils se déplacent. Mais il y a tout un tas de facteurs, de dispositifs d'incitation au vote qui expliquent que leur prédisposition à rester en retrait est combattue et qui expliquent leur participation. Pour une élection comme celle qui s'est passée hier, la campagne n'était pas de suffisamment forte intensité et le sens du vote n'était pas assez clair pour aller faire voter des gens qui, au quotidien, disons, sont assez loin de la politique.
Céline Braconnier, vous évoquiez tout à l'heure une forme de méconnaissance de l'importance du Parlement. Est-ce qu'il y a finalement un problème de sensibilisation à la chose politique en France ?
Il y a aussi un problème de cet ordre-là. Ce qui explique l'abstention massive et l'explosion de l'abstention au fil des ans, ça vient aussi du fait qu'aucune institution en France n'assume pleinement des formes de socialisation politique. L'école républicaine ne joue plus véritablement ce jeu-là. Il n'y a plus suffisamment de partis ou d'associations qui prennent en charge cette socialisation politique. Et du coup, il n'y a plus de quoi compenser dans l'environnement les inégalités électorales qui se transmettent en famille. Quand vous êtes éduqué dans une famille où on ne s'intéresse pas à la politique, pour plein de raisons, où on ne parle pas de politique, où on connaît mal le monde institutionnel, eh bien vous avez peu de chances de rencontrer des éléments qui vont neutraliser cet éloignement, le compenser, vous stimuler dans la participation politique. Donc il faudrait absolument reposer la question de la socialisation politique pour lutter contre les inégalités électorales, qui sont assez peu reconnues en France. On reconnaît les inégalités sociales, on met en place des dispositifs, on cherche à les combattre. Il serait temps, quand on atteint ce niveau d'abstention, de reconnaître les inégalités électorales et la nécessité de les combattre, parce qu'on sait qu'il y a des formes de socialisation pour les combattre. Il y a aussi des dispositifs de proximité, d'incitation au vote, qui fonctionnent assez bien et qui devraient être mis en place pas seulement par les institutions au plus haut sommet, mais dans le quotidien, au niveau local. Et c'est peut-être le rôle de ces nouveaux mouvements, de ces nouveaux partis qui sont en train de restructurer la vie politique, que de prendre en charge cette lutte contre l'abstention.
Céline Braconnier, merci d'avoir été l'invitée de France Culture ce soir. Je rappelle le titre de votre livre coécrit avec Jean-Yves Dormagin, La démocratie de l'abstention, paru chez Gallimard. En Irak, deux journalistes français ont été gravement blessés aujourd'hui en couvrant la bataille de Mossoul. Ils ont été victimes de l'explosion d'une mine qui a coûté la vie à leur fixeur Bakhtiar Haddad. Les précisions d'Oriane Verdier, correspondante au Kurdistan irakien.
Bakhtiar Haddad était l'ami de nombre de journalistes français. Pour eux, il était fixeur. Plus qu'un traducteur, il accompagnait les journalistes sur des terrains dangereux, mettant à leur disposition sa connaissance des conflits et du pays, ainsi que sa parfaite maîtrise du français. Ce lundi, il travaillait au cœur de Mossoul, aux côtés de Véronique Robert de Paris Match, Samuel Forêt, correspondant en Irak pour Le Figaro, et Stéphane Villeneuve, en commande pour France 2. Bakhtiar Haddad est mort, Véronique Robert et Stéphane Villeneuve ont été gravement blessés par l'explosion d'une mine alors qu'ils suivaient l'avancée des forces spéciales irakiennes dans la vieille ville. Cette tragédie met en lumière celle que vivent chaque jour les 100 000 civils toujours pris au piège dans Mossoul Ouest, ainsi que les soldats irakiens qui combattent depuis 8 mois pour la libération de la deuxième ville d'Irak. La dernière phase de cette bataille est extrêmement périlleuse pour les forces irakiennes. Ils doivent combattre dans une zone urbaine que les djihadistes ont eu le temps de miner. Les snipers du groupe terroriste ont positionné dans des zones stratégiques à proximité des familles mossouliotes retenues otages dans les derniers quartiers, toujours sous contrôle de l'organisation État islamique.
Oriane Verdier depuis Erbil, la capitale du Kurdistan irakien. Au Portugal, 63 morts, c'est le dernier bilan de l'incendie de forêt qui ravage la région de Pedrogão Grande dans le centre du pays. Le feu qui a commencé samedi dans un secteur de collines boisées n'est toujours pas maîtrisé ce soir. Plus d'1 millier de pompiers sont mobilisés. La foudre provoquée par des orages de chaleur s'en pluie pourrait être à l'origine de cette catastrophe. Le temps demain sera très chaud sur la France. Météo France qui place 51 départements en vigilance canicule. La zone concernée va du sud-ouest à l'Île-de-France, en passant par le centre et le centre-est. Le soleil s'imposera partout. Quelques orages sont possibles en fin de journée sur les reliefs et dans l'ouest. Les températures maximales de 30 à 35 degrés en moyenne, jusqu'à 37 degrés dans le centre-ouest. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Annie Brault.